Chapitre 10 Le secret des enveloppes. Ayant savouré en gourmet sa cigarette, Martin Dumas reprit les lettres. Avez-vous, dit-il, remarqué que l'écriture de la suscription des lettres n'est pas la même? Oui, oui, j'ai fait cette remarque. Bien, mais vous n'avez pas vu, sans doute, que ces suscriptions ont été écrites sur le même bureau. Et comment le voir? Mais ce sont les suscriptions elles-mêmes qui me le disent. Les suscriptions. Elles ont été écrites avec la même encre, la même plume. Mais toutes les encres se ressemblent et la différence entre les plumes n'est pas si grande qu'on puisse établir une distinction. Comment cela vous m'étonnez vraiment? Erreur, chaque encre, chaque plume a ses qualités, ses défauts propres qui lui font en quelque sorte une personnalité pour des yeux scrutateurs, ceux qui ont l'habitude plutôt de ces observations minutieuses. Ici, vous voyez, ces adresses ont été écrites non pas avec de l'encre de stylographe, mais avec de l'encre violette d'un encrier de bureau. Cette encre est à l'aniline. Or, cette encre a un défaut, qui est une qualité, paraît-il, chez le chocolat, elle blanchit en vieillissant. C'est-à-dire que la lumière, comme toutes les teintures à base d'aniline, elle perd de son coloris. Le soleil, disent les braves gens, la mange. Cette encre qu'on employait ici doit séjourner depuis très longtemps dans l'encrier et ne pas servir souvent. Elle est devenue grasse, huileuse. Elle perle et n'a plus sa couleur franche, très jolie à l'œil. Vous voyez comme les lignes sont pâles. En revanche, remarquez qu'au commencement de l'adresse, le M de monsieur, puis les deux chiffres des numéros de la rue et le P de Passy sont gros, colorés, irisés, semblent tracés avec une autre encre. C'est vrai, mais je vous disais que cette encre perlait. Elle ne tient pas après la plume, elle glisse et dépose dès que la plume touche au papier. Et de plus, comme l'encre forme dans l'écriture, toire, une sorte de voile dichronique qui s'étale à la surface, comme une pellicule brisée, chaque fois que la plume trempe dans l'encre, elle prend un peu de cette pellicule et l'étend ensuite sur le papier dès le commencement du mot. Il ne reste plus ensuite que de l'eau légèrement teintée. Et c'est bien cela. Et je vous disais que la plume qui a servi à écrire ces adresses était la même. Cela se reconnaît au trait. C'est une plume fine, à bec pointu, qui a peut-être servi, qui n'est pas émoussé, n'est pas flexible, et n'a pas une pointe ronde ou oblique, mais toujours adoucie par un bout en iridium, comme les plumes en or des stylos. Voyez-vous, chaque fois qu'on la conduit en haut pour commencer une lettre majuscule, elle gratte, elle accroche, et à la fin du mot, elle garde des bandes de barbe de papier, et fait des bavures. Que la main qui la conduit ne soit pas la même, que l'écriture soit différente, les caractéristiques de la plume la font facilement reconnaître. Le chevalier se déclara émerveillé de ce talent d'observation. Tout à coup, Martin Dumas, qui continuait à regarder les enveloppes, s'écria « Oh, voici qui est curieux !»« Quoi donc ?» Mais ces enveloppes sont cachetées et affranchies à 50 centimes. C'est ma foi vrai, dit le chevalier. Nous n'avions même pas encore remarqué. C'est donc qu'on me les a adressées comme lettres, non comme imprimées. Elles doivent contenir quelque chose d'écrit. Voyons. Les enveloppes étaient en effet collées. Le chevalier prit un coup de papier et fit sauter un des bords de l'enveloppe. Elle contenait une feuille de papier à lettres de deuil. Mais sur cette feuille, quand le chevalier la déplia, on ne vit rien d'imprimé, rien d'écrit. « C'est étrange, » dit le chevalier surpris. Martin Dumas ne répondit rien. Le chevalier ouvrit une seconde enveloppe. Elle contenait la même feuille de papier bordée de noir, mais de même que la première, aucun écrit, aucune trace d'imprimé. « Les autres doivent être sur le même modèle, » fit Martin Dumas. « Alors, que signifie ?» demanda le chevalier Fontis. Martin Dumas, lentement, prit les lettres de faire-part et retourna sur la table devant le chevalier, c'est-à-dire qu'il mit la suscription en dessous. « Voilà, » dit-il. Le chevalier regarda sans comprendre. « Voilà quoi ?» demanda-t-il. « Le signe ? Quel signe ? Mais la croix de Saint-André, l'X !» Le chevalier sursauta et je tressaillis moi-même profondément. En effet, les enveloppes de deuil fermées présentaient en noir des croix de Saint-André parfaites. « Oh, c'est un avertissement !» reprit Martin Dumas. « On veut vous faire entendre que la société, la bande, enfin la mafia, qui a adopté ce signe pour emblème, vous surveille, vous épie. C'est un avis ou une menace. » Le chevalier se dressa subitement. « Eh bien, cria-t-il, qu'ils y viennent !» Il était magnifique d'ardeur, de vaillance. Dans ses yeux, une lueur passa qui rappelait le scintillement des épées au soleil. « Me suis toujours tenu, dit-il, en dehors de la politique, des combinaisons, quelles qu'elles soient, des luttes d'intérêts, des envies, des jalousies. Je ne fais partie d'aucune société secrète, d'aucun comité, d'aucune association. Je donne ma part aux œuvres de bienfaisance, je secours les malheureux, je fais autant de bien qu'il m'est possible autour de moi. » Je me considère donc en règle avec la charité, la fraternité, la solidarité humaine. J'ai établi moi-même sur ma fortune un impôt pour les pauvres, pour les nécessiteux, les besogneux, les vaincus de la vie. Dans mes propriétés, dans mes usines, mes ouvriers, mes laboureurs qui contribuent à ma richesse ont leur part dans les bénéfices que je réalise. Et les vieux serviteurs, ceux qui ont loyalement consacré leur force, leur vie chez moi, chez mon père, dans notre maison, trouvent la vieillesse assurée et le repos là où ils ont peiné. « Mais vous êtes un chevalier socialiste !» fit Martin Dumas. « Non, je suis simplement humain et ne colle pas sur des actes logiques une étiquette politique. » qui gâte la plus simple et la plus ancrée des vertus humaines, la charité. Très bien. J'ai consacré ma vie aux voyages, aux études, aux beaux-arts. Indépendant, je n'entends pas qu'il y ait des individus avec lesquels je ne veux pas frayer et viennent s'imposer dans ma vie. C'est votre droit. Et j'ai toujours agi en honnête homme, au grand jour. Je ne permets pas que des gens marchent dans l'ombre, s'imaginent pouvoir m'entraîner à leur suite. Mais quels sont ces gens ? Je ne les connais pas, je ne veux pas les connaître. Quel est leur but ? Je ne m'en soucie aucunement. Que veulent-ils de moi ? Je l'ignore. Mais je sais bien que personne ne pourra obtenir de moi ce que je ne veux pas livrer. Martin Dumas, qui, durant cette déclaration vibrante, se tint immobile et à son habitude impassible, dit enfin au chevalier « Ce qu'ils réclament de vous, ces gens, enfin, ce qu'ils réclament, c'est sans aucun doute le silence. » « Le silence sur quoi ? sur ce que c'est le comte de Villacerboli, et qui s'imagine que vous connaissez aussi. Qu'était-ce donc? Ben, le fameux marquis Primo di Carmine Santucci est double. Santucci est double. Nous en avons déjà parlé vaguement. Permettez-moi de vous rappeler le fait. Mais je vous écoute, mon cher ami. Le chevalier Fontis, assis dans son grand fauteuil, prit une cigarette et se disposa à écouter le roi des détectives. Martin Dumas reprit. Le comte de Villacerboli me donna rendez-vous, vous le savez, à Vilaine. Là, dans la tonnelle, il commençait à me faire des révélations promises quand il a été interrompu brusquement par la venue d'un homme qui, sous le guisement maladroit de garçon de café, lui fit quelques signes avec les mains. Et le comte affolé, tout à coup, se leva, m'abandonna et s'enfuit. Vous savez le reste. Oui, hélas, l'accident d'automobile. Mais le comte di Villacerboli avait cependant eu le temps de me dire ces mots qui me frappèrent grandement. Le marquis Primo di Carmine Santucci est double. Mais Santucci est double, répéta le chevalier. Qu'est-ce que cela signifie? Que veut dire ce mot double? Que faut-il comprendre? Le marquis de Santucci est double. Je l'ignore, je ne sais, je ne puis rien vous dire. Martin Dumas posa son regard ardent sur le chevalier, cherchant à lire dans ses yeux. La vérité, voulant voir s'il ne lui cachait pas quelque chose. Voyons, demanda-t-il encore. « Ne savez-vous rien sur le marquis de Carmine Santucci ? Car je ne peux croire que ce mot double ait seulement un sens figuré, veuille dire uniquement hypocrite, faux, double visage. À mon avis, cela doit signifier quelque chose de plus sérieux, de plus grave. Et il demeure constant que les habits du marquis, que le marquis lui-même ne se serait pas ainsi acharné après le malheureux comte di Villacerboli, et maintenant ne serait pas après vous, s'il y avait une signification tout autre que celle d'hypocrisie. Le mot n'est pas en effet suffisant, mais pour ces gens, ces chelapans du poignard, tout prétexte est bon. Non, monsieur, non, ces lettres, ces croix de Saint-André, ces signes sont des avis, des menaces. On vous conseille, on vous ordonne de ne pas révéler ce que l'on croit que votre malheureux ami a pu vous dire et n'a pas eu le temps de m'apprendre. Voilà quel est mon avis et je ne crois pas être dans l'erreur. Eh bien, mon cher Martin Dumas, je regrette de ne rien savoir. Pour vous montrer combien leurs menaces, leurs signes cabalistiques, leurs avis mortuaires m'émeuvent peu en vous disant ce que je sais. Il se vit d'un silence, puis au bout d'un moment, Martin Dumas demanda au chevalier « Vous possédez des vignes, n'est-ce pas, en Sicile ?»« Oui, en effet, j'ai un cru qui jouit de quelque réputation. » « Vous faites le commerce de ce vin ?»« Naturellement, je le vends même le plus cher possible. »« Vous en écoulez non seulement en Sicile, en Italie, mais aussi en France ?»« Partout où je peux. »« Est-ce que parmi les acheteurs, les représentants, les entrepositaires à qui vous avez affaire, vous ne comptez pas certain monsieur Bessette. Ah, l'ami Bessette, dit en riant le chevalier. Oui, lui-même, l'ami Bessette. Parbleu, je le connais en effet, cet ami Bessette, pour l'avoir vu chez moi. Mais c'est surtout mon régisseur qui traite avec lui. L'ami Bessette, oh, je crois bien, un brave homme. Vous continuez à traiter avec lui? Je vous ai dit que c'était avec mon régisseur qu'il avait surtout affaire. Moi, je ne l'ai vu que très peu. suffisamment cependant pour qu'il se déclare mon ami Bessette. Je sais cependant que l'ami Bessette était aussi l'ami Bessette chez les Carmine Santucci. Bien précisément, j'allais vous parler de cela. Il eut affaire au père de celui-ci, au père du marquis Primo. Mais il eut le loisir de connaître le marquis Primo, cependant. Oh, assurément. Bien, l'ami Bessette s'est vanté d'être l'ami du marquis di Carmine Santucci, le père, et d'être allé chasser avec le marquis Primo, dont nous nous occupons. Son ami, le marquis Primo di Carmine Santucci. Oh, c'est très possible, en effet. Martin Dumas déclara. Eh bien, voilà ce qui est grave. Le jour où les magistrats faisaient leur enquête sur la mort du banquier Castagnier et de sa fille Irma, l'ami Bessette demanda à être entendu. Vous vous en souvenez, Courville ? J'étais là, en effet. Et comment cet ami Bessette, demanda le chevalier, pouvait-il se trouver mêlé à cette affaire ? L'ami Bessette était aussi l'ami du banquier Castagnier. Oh, c'était l'ami de l'univers. Jusqu'ici, en somme, rien de bien étonnant, mais où l'affaire se complique, comme dans un bon feuilleton. C'est lorsque l'ami Bessette, qui prétend avoir été l'hôte des Carmine Santucci en Sicile, avoir chassé avec Primo, être son ami, c'est lorsque l'ami Bessette, mis en présence de son cher Primo, ne le reconnut pas. Le chevalier sursauta. « Vraiment ? » s'écria-t-il. « Vraiment ? Il n'a pas reconnu le marquis Primo di Carmine Santucci. » Et le marquis Primo, en retour, non seulement ne reconnaît pas l'ami Bessette, mais semble même ne l'avoir jamais vu avant ce jour néfaste. Oh, « Pas possible. Oui, cela est. Mais c'est incroyable, c'est grave, c'est terrible. » Et comme le chevalier allait parler, Martin Dumas étendit la main pour le prier de le laisser achever. C'est à cela que j'ai pensé souvent, depuis que le malheureux comte di Villacerboli m'a dit « Le marquis Primo di Carmine Santucci est double. » Le chevalier Fontis regarda Martin Dumas, puis tourna, stupéfait, anxieux, les yeux de mon côté. J'avoue que j'étais fortement impressionné aussi par cette dernière déclaration de Martin Dumas. « Je pense, dit le détective, toujours calme et impassible, je pense donc que le marquis Primo di Carmine Santucci n'est pas seulement un homme à double visage, mais qu'il a aussi un double corps. Un double corps ? Fut le cri que spontanément ensemble nous lançâmes le chevalier et moi. Oui, messieurs, il y a deux marquis Primo di Carmine Santucci. Et que concluez-vous de cela ? Oh, je ne sais encore. Il faut savoir si vraiment il y a deux marquis Primo. Et dans ce cas, savoir ce qu'ils sont, ce qu'ils valent, chacun de leur côté. Il faut surtout savoir pourquoi personne ne sait cela. Et comment il peut se faire que des gens du pays, des Siciliens comme vous, monsieur Fontis, ne connaissent pas cette double personnalité ou ces deux personnages.